Où fait-il bon vivre au niveau du porte-monnaie en Suisse et dans l'arc jurassien? Réponse tout à l'heure. On revient sur une étude du Crédit Suisse publiée cette semaine. Une étude qui dresse le classement des cantons et des communes les plus attractives du pays. La question passionne dans le Jura et dans le Jura bernois et même au-delà. L'avenir de Moutier, bien sûr. Cet avenir sera-t-il jurassien ou sera-t-il bernois? À 6 mois du vote, plusieurs centaines de personnes ont pris part à un débat qui était mis sur pied par RFJ et RJB mercredi. Analyse de cette soirée, événement avec les rédacteurs en chef du quotidien jurassien et du journal du Jura qui seront avec nous après 18h30. Enfin, nous prêterons attention aux humeurs du ciel, inégales selon l'altitude à laquelle vous vous situez. Deux saisons en une, nous dira Frédéric Glasset de Météo News en dernière partie d'émission. Et peu importe le temps qu'il fait, peu importe la saison, place publique, n'oublie pas de rire ou au moins de faire sourire avec la participation tout à l'heure de l'humoriste Barnabé.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devec.
Bonsoir à tous et bonsoir à nos deux premiers invités. J'ai le plaisir d'accueillir Andreas Schurt. Bonsoir.
Bien, bonsoir.
Vous pouvez parler vers le micro, comme ça on vous entendra mieux. Vous êtes banquier responsable de la Suisse romande pour les entrepreneurs chez Crédit Suisse. Vous êtes aussi député PLR au Grand Conseil Neuchâtelois, bienvenue. Et avec nous également Théo Huguenin-Elly, conseiller communal de la Chaux-de-Fonds, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en charge de l'urbanisme, des bâtiments et des relations extérieures. Vous êtes aussi député socialiste au Grand Conseil Neuchâtelois. Alors je profite de votre présence à tous les deux avant de discuter de l'étude du Crédit Suisse dont j'ai parlé il y a un instant. Et bien de parler du budget. Le budget du canton de Neuchâtel qui est sous toi, un budget de tous les dangers alors que les finances sont au plus mal. À seulement deux voix d'écart, hein, la copie a été adoptée. Alors tout d'abord, avoir votre retour sur cette soirée épique, Andreas Schurt.
Oui. Vous connaissez la réga hier, je veux dire, ce qu'on a fait. L'objectif était absolument de ne pas sortir de manière ridicule. Il était fondamental pour avoir un budget. Mais c'est clair, c'est un très bon budget, un très très mauvais budget. Le but, c'était simplement qu'on puisse offrir au Conseil d'État une certaine sérénité et surtout de ne pas devoir emprunter pour fonctionner. Je crois, pour nous, le PLR, je pense quand même on était la pièce maîtresse dans ce budget, il faut aussi avoir l'audace de le dire, et je remercie encore une fois le député Hausner, comme je l'appelle le Lionel Messi de la Commission des Finances, qui a tout orchestré pour le bien du canton.
Merci. Alors, il y a eu des compromis côté PLR, il y a eu des compromis aussi côté socialiste. Théo Huguenin-Elly, pour vous, ce budget sous toi, c'est plutôt une bonne nouvelle?
Oui, côté socialiste, il y a eu surtout beaucoup de couleuvres à avaler durant ce budget, mais c'est un grand soulagement que l'État de Neuchâtel puisse avoir un budget. Il y a un regret dans la manière dont les choses se sont passées, dans la difficulté de notre Parlement à trouver des accords. Mais au bout du compte, et même si sur le fond, avec le député Hurt, nous ne sommes vraisemblablement pas d'accord, au bout du compte, ce qui est important, c'est que le canton de Neuchâtel ait un budget, puisse aller de l'avant dans ces temps d'incertitude, que les institutions fonctionnent.
Les séances de budget se suivent et se ressemblent, hein, j'ai envie de dire pour vous, Théo Huguenin-Elly. Il y a le budget de la Chaux-de-Fonds dans le Rouge-Vif, et puis hier soir encore le budget du canton. Est-ce que vous gardez malgré tout espoir en les finances publiques et en la politique?
Bien sûr, on garde espoir dans les finances publiques et dans la politique. Simplement, c'est vrai que le canton de Châtel traverse un moment difficile avec une industrie horlogère qui est en crise, avec très peu de visibilité, des recettes fiscales qui manquent dans certaines communes, qui manquent globalement au canton, avec des mouvements sociaux également. Il faut trouver des solutions, il faut absolument réussir à inverser la tendance en pratiquant une politique anticyclique. Et c'est peut-être là qu'il y a eu une divergence de vue avec le PLR. Pour nous, socialistes, c'est absolument impensable de descendre la fiscalité quand un canton a 70 millions de déficit. Par contre, il faut trouver les moyens d'investir dans ces temps difficiles.
Dernière question et très rapidement, Andreas Schurt, l'UDC tout à droite et le groupe des Verts, Popistes et Solidarité à gauche ont failli parvenir à faire échouer le budget hier. Si ces partis sortaient vainqueurs lors des prochaines élections, engrangeaient plus de sièges, est-ce que le canton de Neuchâtel risque des blocages importants? Est-ce que ça vous inquiète?
Le but finalement, à la fin de la journée, tout le monde doit être gagnant. Mais gagner de manière positive, ça veut dire qu'on doit quand même donner aussi une image à l'extérieur du canton. Alors, il y a deux attitudes à approcher. Nous, PLR, c'est vraiment l'attitude responsable. On a aussi dû faire le point dans la poche. Nous, on a dit, d'accord dans cette situation difficile, on est d'accord de perdre individuellement pour que le canton en sorte, mais tout blocage, ça serait absolument néfaste.
Eh bien, messieurs, on va maintenant parler du sujet qui nous concerne aussi ce soir. Neuchâtel qui fait parler de lui, comme d'autres cantons d'ailleurs, mais Neuchâtel comme d'un canton qui n'est pas parmi les plus attractifs au niveau financier. Une étude du Crédit Suisse parue cette semaine dresse le classement des cantons et l'étude se base sur le revenu librement disponible, à savoir l'argent qu'il reste une fois qu'on a payé ses impôts, son loyer, la garde des enfants, ses déplacements, etc. L'argent qui reste dans son porte-monnaie. Alors, où faut-il vivre pour avoir le plus d'argent disponible à la fin du mois, à la fin de l'année? Réponse, dans le canton d'Uri. Mais pour ceux qui n'ont pas l'intention de s'exiler en Suisse centrale, l'étude révèle aussi les différences qu'il peut y avoir d'un canton à l'autre, d'une commune à l'autre, y compris dans la région. Marcel Leuenschwander a mis son nez dans les chiffres pour nous.
Pour les trois cantons de l'arc jurassien, on trouve en tête le Jura, 18e au niveau suisse. Au 20e rang, le canton de Berne, pile dans la moyenne nationale. Enfin, Neuchâtel est en dessous de cette moyenne, au 22e rang. On précise que par région, c'est le Jura bernois qui l'emporte. Illustration en chiffres, pour un ménage avec deux enfants, il restera dans le porte-monnaie 69 500 francs à la fin de l'année. Si ce ménage habite à Grandval, dans le Jura bernois, c'est 15 000 francs de plus qu'une même famille qui vit à Delémont. 4 000 francs de mieux qu'à Moutier, c'est encore une économie de 3 000 francs par rapport à la Chaux-de-Fonds. C'est dire que la différence à la fin de l'année peut atteindre plusieurs milliers de francs.
Andreas Hurt, au niveau cantonal, ce qu'on sait déjà se confirme. Il vaut mieux habiter dans des cantons voisins si on veut avoir davantage d'argent dans son porte-monnaie, dans les communes voisines, de l'autre côté des frontières cantonales. Qu'est-ce que vous dites ce soir aux Neuchâtelois qui lisent ou qui prennent connaissance de cette étude pour les empêcher de faire leur valise ce soir?
Voyez, mesdames et messieurs, il y a toujours deux critères quand vous faites le choix. Où est-ce que je veux vivre? Où est-ce que je me sens à l'aise? Où est-ce que j'ai envie de partager avec des amis? Où est-ce que je veux m'impliquer socialement? Vous avez des critères économiques, comme cette étude du Crédit Suisse, qui est quand même assez unique et remarquable, parce que c'est aussi un outil pour les décideurs, comme le Conseil d'État, de prendre les décisions, de choisir quel axe pour positionner de manière relative. Mais encore une fois, Neuchâtel, nous avons des atouts qui figurent peut-être pas forcément dans cette étude. Je pense qu'on est plus fort sur les facteurs soft, comme je dis, émotionnels. On a un niveau d'attractivité qui est absolument unique. Je dis toujours, Neuchâtel fait clairement place dans le top 10 en Suisse. On n'a absolument rien à envier à ce qu'on a au Locarno.
Mais ça peut se jouer quand même en milliers de francs. Théo Huguenin-Elly, il se trouve qu'au niveau neuchâtelois, la Chaux-de-Fonds s'en tire mieux qu'ailleurs dans le canton. Est-ce que le niveau bas des loyers explique à lui seul cette attractivité?
C'est vrai que le niveau bas des loyers joue un rôle important. Parce que ce que j'aimerais dire, ce qui ne se trouvait pas dans le résumé de M. Neuenschwander, c'est qu'effectivement, la ville de la Chaux-de-Fonds apparaît comme la première ville de Suisse romande en termes de revenus disponibles pour les familles qui bénéficient de gardes extra-familiales. Et ça, c'est pour nous, d'abord, c'est un immense plaisir de lire cette étude et de le découvrir, et il faudra absolument réussir à le communiquer, parce que si c'est très facile de communiquer sur des taux d'imposition qui sont élevés, c'est paradoxalement plus difficile de communiquer sur les revenus disponibles. Donc ça signifie que la Chaux-de-Fonds, malgré une imposition assez lourde, le revenu disponible pour les familles notamment est un revenu disponible tout à fait intéressant. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, l'attractivité des logements, le prix des logements, que ce soit les logements que l'on acquiert en PPE, que ce soit les logements que l'on loue, joue un rôle assez fondamental.
Est-ce que ça a encore une valeur, cette étude ou ce genre d'indicateur pour vous, alors que la crise économique, on le sait, la crise économique et budgétaire frappe la Chaux-de-Fonds avec des perspectives plutôt inquiétantes, si on regarde le verre à moitié vide, il y a une crise de l'emploi, etc. Est-ce que pour vous, cet indicateur pèse encore quelque chose?
Ah, bien sûr, c'est un indicateur qui est très important, c'est un indicateur qu'il faut réussir aussi à communiquer. Vous savez, ces quatre prochaines années, à la Chaux-de-Fonds, il y a 400 logements qui vont sortir de terre. Les permis de construire sont déjà délivrés ou sont sur le point de l'être. C'est le grand projet des minoteries, c'est le projet de la charrière, c'est le projet de l'ancien Cop City, c'est le projet des forges et toutes sortes d'autres projets. Et ces logements vont trouver preneur. Il faudra qu'ils trouvent preneur. Alors, pour ce faire, il s'agit d'indiquer qu'à la Chaux-de-Fonds, le revenu disponible est attractif. Il s'agit d'indiquer que la qualité de vie également est attractive. Ça nous permet de nous dessiner aussi un avenir. Ces indicateurs sont très, très intéressants pour nous.
Andreas Hurt, pour conclure, on le voit, la fiscalité, ce n'est pas l'unique indicateur qui fait d'une commune ou d'une région un endroit attractif où vivre. Pourquoi insister, par exemple, pareillement sur des baisses d'impôts à l'occasion de budgets de l'austérité?
Disons, vous comprenez, si vous voulez attirer des nouveaux contribuables, c'est un des premiers critères, ce qu'on appelle les indicateurs de localisation. Ça veut dire qu'il faut savoir une culture d'attirer le client, savoir séduire le client. Une fois que vous avez le client qu'il est heureux, vous pouvez le développer. Et j'aimerais donner un petit clin d'œil à mon ami Théo Ignaelli. À la Chaux-de-Fonds, on doit arrêter de se plaindre et avoir une politique un petit peu plus positive. Puis on peut dire « Make la Chaux-de-Fonds great again ». Parce que nous avons les capacités pour faire ça.
Vous êtes d'accord avec ça, Théo Ignaelli? On se quitte sur ça?
Mais bien sûr, et je crois qu'on partage cette idée-là avec Andréa Schurt. Et je crois que la Chaux-de-Fonds, aujourd'hui, malgré les difficultés, se trouve dans cette posture-là. Watch me, hein, watch me, c'est le slogan désormais de la Chaux-de-Fonds. Et tout ce qui est à regarder à la Chaux-de-Fonds aujourd'hui, tout ce qui est mis en valeur est positif.
Cocorico, en anglais, de part et d'autre. Exactement. Merci Cocorico. Beaucoup d'être venu, Andréa Schurt et Théo Ignaelli. On vous souhaite une bonne suite de soirée.
Merci infiniment. Allez, merci beaucoup.
Place publique.
Et avant de parler de la suite, à savoir de Moutier, il est temps de s'informer avec Raphaël Girardin.
Bonsoir. Le respect des bordures tampons est insuffisant dans le canton de Neuchâtel. Une étude des sections neuchâteloises de ProNatura et du VVF a été présentée ce matin. Elle révèle que trop souvent, des agriculteurs épandent du fumier et du lisier sur ces bandes de 3 mètres de large qui séparent les champs, des forêts, des haies et des cours d'eau. Une pratique interdite par la loi car elle conduit à une pollution du sol et des eaux. Et sur 1047 bordures tampons analysées, 41% d'entre elles étaient touchées par de l'engrais. Une vitesse excessive est à l'origine de l'accident de la circulation qui avait causé la mort de deux personnes entre Plaigne et Mettambert en octobre dernier. L'enquête du ministère public jurassien révèle également que le conducteur n'était ni sous l'influence de l'alcool ni de produits stupéfiants. La justice jurassienne a donné ces informations cet après-midi dans un communiqué. Deux des trois occupants du véhicule avaient perdu la vie lors de la sortie de route. Le conducteur figure parmi les victimes. Les personnes à mobilité réduite se heurtent à de nombreux obstacles à Saint-Imier. Des apprentis du CEF Santé Sociale ont parcouru les rues avec des personnes en situation de handicap. Ils ont listé toutes les embûches, trottoirs trop hauts, commerces inaccessibles en fauteuil roulant ou encore bâtiments publics mal adaptés. La municipalité va maintenant étudier ces résultats et définir des priorités. La Suisse étant la libre circulation des personnes à la Croatie, c'était la condition exigée par Bruxelles pour réintégrer la place académique suisse dans le programme de recherche Horizon 2020. Météo, morne plaine. Le brouillard continue de s'accrocher à la région de l'arc jurassien avec une limite à 900 mètres. Plus haut, c'est le soleil qui va briller demain. Les températures varieront entre moins 2 et 0 degrés en plaine. Elles grimperont jusqu'à 9 degrés au soleil. Une agréable soirée à tous et un bon week-end.
Place publique.
Et on va parler de météo, mais ça c'est pour tout à l'heure. Et puis on va parler surtout de l'avenir de Moutier avec des experts de la question jurassienne. Alors avant cela, on aimerait vous entendre, Barnabé, vous, l'humoriste neuchâtelois, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Bonsoir Gab, ce soir un sujet délicat, un sujet qui met le feu aux poudres et pourtant on n'est pas le 1er août. Un sujet de Noël, un sujet de sapin qui sent le sapin, effectivement, et en un mot, un sujet épineux. Et dans épineux, il y a nœud. Épine et nœud. En effet, je ne vais pas être très politiquement correct, mais c'est un sujet de têtes de nœuds qui font la guerre à des têtes de pine. Moutier, jurassien ou bernois. Si on écoute son cœur, Moutier est jurassien. C'est un état d'esprit, une cohésion dans les vallées voisines. Et dans le même temps, c'est bien pratique d'être bernois. C'est l'assurance de la rassurance. Le consensus suisse aurait voulu qu'on tranche Moutier, telle la fondue fribourgeoise. Donc je ne me prononcerai pas sur un sujet qui ne me concerne pas, ni même ne m'aventurerai à une opinion, je suis une châtelois, et la guéguerre au bas y est tout aussi ridicule. Ce sont des guerres intestines, des personnes y sont attachées de manière viscérale, comme on en croit en un dieu. Et là, l'affect y infecte l'intellect. Mais en ces temps troublés, où une vraie guerre fratricide fait rage dans un peuple multimillénaire, en Syrie, à Alep, après la semaine que nous venons de vivre, où nous avons vu sur les réseaux sociaux des appels de désespoir, de visages sans doute enterrés au moment où je vous parle, eh bien, cette nuit, j'ai cauchemardé. Perdu dans les rues de Moutier, en cendres, sous les tirs de Kalachnikov, je devais expliquer à des enfants pourquoi, Dans Moutier, des tirs de mortier entre pro-jurassiens et pro-bernois étaient censés déterminer qui bouchera à la fin les trous qui sont faits dans les pierres de leur maison. Et au réveil, cette question d'une ville où tout va bien, où il fait bon vivre, cette question, bien que profonde sans doute pour les gens concernés, me semblait soudainement futile et Alep un miroir déformant et catastrophique de la question suisse aux Suisses de Moutier. Avant d'être suisse, bernois ou jurassien, on est humain. Je comprends très bien par contre l'enjeu pour les deux cantons concernés. Un territoire en plus ou en moins avec des impôts, c'est donc des rentrées d'argent en plus ou en moins. Pour les politiciens, là il y a un enjeu. On flatte l'électorat avec des promesses. Il existe 159 postes de fonctionnaires, nous on en fera 165. Wouh, c'est la fête, 6 postes de plus quand même. Eh ben, si vous allez chez le voisin, on retire notre école, na. Ah non, pardon, excusez-moi, je croyais que j'assistais à un débat, mais là c'est plutôt une chamarrerie de cours d'école. Ce n'est que quand tout va bien qu'on peut se demander s'il ne ferait pas mieux vivre chez le voisin. Alors comme tout va bien, ben pour Noël, un enfant de 40 ans va faire un vœu. S'il vous plaît, que les gens aient plus de cœur que de peur et voient leurs ressemblances plutôt que leurs différences. Et là, moi, je retrouverai l'esprit de Noël. Alors, joyeux Noël à tous.
Place publique.
Joyeux Noël, Barnabé. Merci pour ce quasi-sermon à la fin. On précise qu'on peut vous retrouver à partir du 31 décembre dans la revue La Décharge à Évologie à Cernier. Alors, on va faire réagir nos invités à votre billet d'humeur, d'humour. Le plaisir d'accueillir Rémi Chetelat, rédacteur en chef du quotidien jurassien. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Pierre-Alain Brenti-Coffer, rédacteur en chef du journal du Jura. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Tous les deux, fins connaisseurs de la question jurassienne. Alors avant de revenir sur le débat consacré à l'avenir de Moutier, qui était mis sur pied avant-hier par les radios RFJ et RJB, une réaction à ce qu'on vient d'entendre. Si j'ai bien compris ce qu'a dit Barnabé, la question jurassienne, pour lui, est une question pour gens bien portants qui n'ont pas d'autres soucis plus sérieux. Rémi Chetelat.
Je veux dire, c'est une question politique, et la politique, c'est quelque chose de sérieux. À notre niveau, au niveau jurassien, c'est quelque chose qui vaut la peine, je pense, d'être réfléchi.
Et pour vous, Pierre-Alain Brenti-Coffer, vous l'avez même écrit, hein, il y a le côté du cœur, où là, les sentiments, eh bien, c'est toujours important, et de l'autre, des calculs d'apothicaire.
Oui, eh ben, je vous dirais tout d'abord que votre humoriste a très bien résumé la situation. Il a bien fait de faire un parallèle avec Alep, ce qui me permet d'ajouter que quoi qu'il arrive le 18 juin, les gens de Moutier ne seront pas dans la situation de ceux d'Alep. Et puis pour les petits problèmes, je citerai simplement deux délégations que j'avais eu l'occasion d'interviewer à l'Assemblée interjurassienne qui venaient à la fois d'Afrique du Sud et d'Irak. Et les deux m'avaient dit, effectivement, vous avez de petits problèmes. Je cite. Mais je n'habite pas Moutier.
Eh bien, on va faire quand même de grands discours sur ces petits problèmes, parce qu'ils nous intéressent. C'est pour ça que vous êtes là. Vous étiez tous deux présents, hein, mercredi soir à la Sociétale de Moutier. C'est là que les radios de RFJ et RJB ont organisé donc un débat à 6 mois du vote communaliste. En effet, le 18 juin de l'année prochaine, les habitants de Moutier pourront choisir s'ils veulent ou non quitter le canton de Berne pour rejoindre le canton du Jura. Le débat opposait, pour ceux qui n'étaient pas présents, le ministre jurassien Charles Juillard et le conseiller exécutif bernois Pierre-Alain Schneck. Alors, on a pu lire les comptes rendus de cette soirée dans vos colonnes. C'était jeudi. Hier, ce soir, vous nous livrez votre appréciation et les leçons à tirer de ce débat. Pierre-Alain Brenti-Coffer, déjà un mot sur l'affluence.
Alors, l'affluence a étonné beaucoup de monde. Personnellement, elle ne m'a pas étonné. Je sais qu'à Moutier, le sujet est chaud. C'est un sujet où le cœur parle avant tout. D'ailleurs, j'ai eu l'impression que le public, j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup observé, a véritablement fait parler son cœur, que ce soit d'un côté ou d'un autre. J'ai véritablement l'avis que toutes les personnes qui étaient là, ou presque, si on leur avait donné tout de suite 500 francs par mois de plus d'un côté ou d'un autre, ça n'aurait pas fait changer leur opinion d'un iota.
C'est
la première impression que j'ai eue.
Vous avez la même impression, entre 300 et 500 personnes, hein, selon les estimations.
Oui, moi j'étais étonné en bien, surtout de voir qu'un si petit problème déplaçait autant de gens qui auraient pu gentiment regarder la télévision, boire l'apéritif ou faire autre chose. C'est bien la preuve que ce n'est pas une si petite question que ça, la question jurassienne.
Et pour bien comprendre, pour mieux se rendre compte de quel côté penchait la salle, je vous propose un petit test auditif, hein, aussi à tous nos auditeurs. On va diffuser deux salves d'applaudissements à suivre. La première était pour le bernois Pierre-Alain Schneck. La seconde salve, pardon, pour le jurassien Charles Juillard. Côté pro-bernois, ça donne ça. Et côté pro-jurassien, ça donne ça. Alors, la victoire dépendra de la faculté de chaque camp de mobiliser. On vient d'entendre hein, les applaudissements. Bien sûr, la salle penchait plus pour Charles Juillard. Est-ce que la fréquentation de ce débat, la composition du public, nous dit quelque chose sur l'issue du 18 juin par rapport à cette mobilisation, Pierre-Alain Brensikofer?
Je ne pense pas forcément, parce que alors, si c'est représentatif du vote qui aura lieu le 18 juin, ça sera une écrasante victoire des autonomistes, écrasante. Mais il y a une partie de la population qu'on n'entend pas, qui ne s'est visiblement pas déplacée, qui ne s'intéresse pas trop au problème. Que feront les modérés? Que feront les indifférents? Que feront les mous, ceux qui n'ont pas voté le 24 novembre? Ce qui me permet de me demander quel lapin sortira du chapeau de chaque camp pour convaincre ces gens-là de voter oui ou voter non. C'est là peut-être que la différence se fera.
Rémi Chatelat, une salle plutôt acquise à la cause jurassienne, à Charles Juillard. Est-ce que c'est un signe avant le vote du 18 juin?
Non, je ne pense pas que c'est un signe. Je pense que simplement chacun des deux camps, des deux mouvements, avait rassemblé ses troupes. Et puis le camp autonomiste avait, selon toute vraisemblance, rencontré davantage d'écho à son invitation que le mouvement pro-bernois. Je ne pense pas qu'on peut tirer de conclusion. C'est pas le débat qu'il faut gagner, c'est la votation. On a vu que Mme Clinton a gagné beaucoup de débats. Elle n'est pas présidente des États-Unis. Et j'espère qu'il n'en sera pas ainsi après la première soirée de débat qu'on a eue mercredi dernier.
C'est votre espérance, on va discuter un de vos positionnements respectifs. Passons tout de même à l'analyse de deux, trois propos qui ont été tenus par les débatteurs, Pierre-Alain Schneck et Charles Juillard. Alors je vous propose un double extrait qui nous permet de mieux saisir leur stratégie d'argumentation à chacun.
En ce qui concerne les emplois que Berne a mis à Moutier, j'aimerais signaler aujourd'hui qu'un emploi sur cinq dépend directement du canton de Berne. Un emploi sur cinq à Moutier. Et lorsque je parle d'un emploi sur cinq, ce n'est pas des emplois que l'on va faire venir à Moutier, que l'on va déplacer de quelque part pour les mettre à Moutier. Ce sont des emplois bien réels qui sont aujourd'hui ici à Moutier, où les gens travaillent ici chaque jour à leur poste de travail.
La préfecture est partie à Courtelary, le tribunal des mineurs est parti à Bienne, l'office des eaux et des déchets est parti à Berne, le registre foncier est parti à Courtelary, l'école professionnelle à Tramelan, j'en passe, etc., etc. Alors, mesdames, messieurs, si c'est la vision du grand Moutier que promet le conseil exécutif bernois à la ville de Moutier, je crois que nous avons, nous, des propositions claires pour effectivement donner à Moutier une importance très grande.
Je ne mets pas en doute l'engagement du canton du Jura, mais pour l'instant, ces postes ils ne sont pas créés, ces emplois ils ne sont pas transférés. Et on sait très bien.
Ah bah, évidemment.
Et on sait très bien qu'en politique, les promesses n'engagent que les gens qui oui, veulent ça, bien les croire.
Ça, les gens de Moutier sont bien placés pour s'en rendre compte. Hein. Je vous rappelle les promesses tenues par le canton de Berne tout à l'heure vis-à-vis de la ville de Moutier. Alors.
Voilà, débat chaud hein, par moment. D'un côté, les acquis du canton de Berne, le présent, et de l'autre, les perspectives d'avenir dans le canton du Jura. Pierre-Alain Brensikofer, dans votre journal, vous avez titré « Mieux que personne », c'est un tien contre deux, tu l'auras.
Oui, effectivement. Je ne vais pas vous faire avouer l'escrêt, je ne l'aurais peut-être pas personnellement choisi, ce titre-là, à cette occasion. Parce qu'il n'est pas forcément représentatif du débat, là. On l'a souvent entendu dans la campagne, les mouvements de lutte l'ont contredit ou l'ont soutenu. Toujours est-il que les deux extraits que vous avez proposés sont assez significatifs. Finalement, ils ont les deux raisons. D'une part, on peut pas nier que Berne a dû fermer ou regrouper des services à Moutier. D'autre part, quand Schneck dit ben ça vous l'avez, et puis ça vous l'avez, c'est une certitude, c'est pas une promesse, ça permet aussi de marquer des points.
Rémi Chetla, qu'est-ce que vous pensez de la prestation de Pierre-Alain Schneck, qui avait plutôt le rôle, elle est difficile, hein, il doit défendre le présent, il ne peut pas faire miroiter un avenir plus radieux que ne l'est la situation actuelle.
Oui, je crois qu'il l'a très bien dit. Il a dit « ça, vous l'avez », il n'a pas dit « ça, vous l'aurez toujours ». Et puis, c'est en cela que, d'un côté, il y avait des engagements fermes de Charles Juillard, qui sont des engagements d'État soutenus par les institutions jurassiennes, et jusqu'ici, du moins, sans la moindre contestation du peuple jurassien, alors que, de l'autre côté, on rappelait des faits, mais on n'offrait aucune garantie sur le long terme et on ne prenait pas d'engagement.
Alors si Charles Juillard s'est montré plus incisif, son vis-à-vis n'a pas démérité. Pierre-Alain Schneck a dû davantage jouer sur la défensive, avec parfois des moments plus compliqués que d'autres. C'était à l'heure des questions, après une heure et demie de débat.
Quand on voit le développement de la ville de Dlemont actuellement, on est impressionné. Je voulais savoir, Monsieur Schneck, ce que le canton de Berne a apporté ces 10 dernières années à Moutier.
Et le développement d'une ville, le développement d'un village, le développement d'une région dépend principalement de la région, de la ville et de ce que les citoyennes et les citoyens de cette ville entreprennent comme projet.
Exercice redoutable, on le voit. Parfois les silences en disent beaucoup. Rémi Chetla, est-ce que ce genre de moment, ça peut peser lourd ?
Je ne sais pas, ça peut peser lourd, ça montre quand même... je veux dire une certaine réalité, un silence effectivement assourdissant qui traduit la vérité que Berne a peu fait, sinon rien ou pas grand chose pour Moutier, et aussi peut-être le manque d'habileté politique de ce nouveau conseiller d'État Pierre-Alain Schneck, qui n'a pas encore peut-être acquis tous les réflexes politiques pour être percutant et savoir se ressortir ou s'en tirer grâce à une pirouette quand on est confronté à une question un peu embarrassante.
Pierre-Alain Brensikofer, il y a eu un silence, mais il y a eu surtout
le silence est embarrassant, mais moi je trouve que la réponse est extrêmement convaincante. Il a tout dit, c'est pas un canton de remplacer une communauté, une commune pour bien des tâches, puis on peut descendre à l'échelon suivant, après une commune peut faire certaines choses, et après c'est les particuliers, les entreprises qui prennent en compte, mais qu'est-ce que vous avez fait pour Moutier ? Moi je trouvais la question un peu stupide, disons.
Par rapport au rôle que doit être celui de Pierre-Alain Schneck, qui doit être un promoteur du camp bernois, est-ce que vous avez là le bon cheval pour porter cette cause ?
Alors oui, je pense effectivement que ça sera un bon cheval. Il sera aussi aidé par Bernard Poulvert, qui sont les deux atouts du gouvernement bernois dans cette campagne. Monsieur Schneck, Monsieur Chetla l'a dit, manque encore peut-être d'expérience, d'habitude des débats. Il est en politique depuis quelques mois sûrement, mais c'est un pragmatique qui connaît très bien ses dossiers. D'après ce que je sais, il impressionne à Berne parce qu'il les lit à fond. Il ne se contente pas de les signer. Et pour ajouter encore quelque chose, il a fait un sacré travail au niveau de l'hôpital. Je pense que dans ce domaine-là, qui est particulièrement sensible, il sera redoutable.
Merci, on va conclure avec cette question que je vais poser à tous les deux. Ça semble clair, et on l'a compris en vous entendant même ce soir, que le journal du Jura penche davantage pour un maintien de Moutier dans le canton de Berne, et que le quotidien jurassien, à l'inverse, préfère le rattachement de Moutier au canton du Jura. Alors, cette question, jusqu'où vos préférences vont influencer votre manière de traiter la question durant ces prochains mois ? Rémi Chetla.
Disons que la position du quotidien jurassien est claire de longue date. Le journal est clairement favorable au transfert de Moutier dans le canton du Jura, pour une question de cœur, bien sûr, de raison également. On avait déjà pris une telle position avant le 24 novembre 2013. Maintenant, concernant le travail de la rédaction, tout n'est pas évidemment encore défini. On est à plus de 6 mois du vote. Mais nous allons évidemment présenter et couvrir cette campagne de manière objective au niveau des faits, original, je l'espère, dans le traitement de l'information, et engagé, comme nous l'avons fait dans le cadre du 24 novembre, au niveau du commentaire. Les journalistes ne feront pas de propagande, mais du travail professionnel. Et puis on espère que, voilà, en plein accord avec la ligne éditoriale du journal, que ça contribuera quand même en informant les gens et des moutiers à rejoindre la famille jurassienne et le canton du Jura.
Est-ce que de l'autre côté de la Roche-Saint-Jean, pour le journal du Jura, c'est strictement un peu le même principe ?
Alors tout d'abord, un petit rappel, le vote du 24 novembre, le journal du Jura n'a pas pris position. Nous avons informé d'une manière aussi exhaustive que possible, nous avons parlé des deux camps, certains nous ont même reproché de ne pas en faire pour les pro-bernois, d'autres nous ont dit, ouais, vous n'avez pas besoin de prendre position parce que le résultat était couru d'avance. Moutier, c'est quand même un peu différent. Ici, on a l'impression au journal qu'un départ de Moutier serait une perte terrible pour le Jura bernois, que ce serait une perte terrible pour les romans de Bienne, par ricochet, pour tous les romans du canton, et que ça affaiblirait la position du canton de Berne dans son fameux rôle de pont. Je rappelle aussi en Suisse allemande que tous n'ont pas le niveau intellectuel de M. Poulvert, et qu'on peut compter sur des politiciens pour profiter d'un éventuel départ pour remettre en cause certains privilèges. Ce qu'on va dire, c'est qu'on estime que Moutier a tout à fait sa place dans le Jura bernois comme centre véritable de cette région. J'ajouterai que c'est une position totalement honorable qui n'a rien à voir avec de l'aplaventrisme ou du...
Donc vous allez prendre position d'une certaine manière.
On l'a déjà fait un peu, on c'est l'a ça. Laissé entendre que voilà. on serait déçu que Moutier s'en aille, c'est bien sûr.
Eh bien,
ça n'empêchera pas de participer à toutes les conférences des deux camps, de tous les débats, etc.
Eh bien, on se réjouit de vous lire, surtout de lire vos quotidiens, messieurs. Merci d'être venus dans Place Publique analyser ce débat et nous donner aussi vos positions respectives. Rémi Chetelard, rédacteur en chef du quotidien jurassien, et vous-même, Pierre-Alain Brenzikofer, rédacteur en chef du journal du Jura. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Au revoir. Au revoir.
Place publique.
Et on ajoute que ce débat, hein, vous pouvez le retrouver en tout temps sur RJB et RFJ.ch, un débat en son, mais aussi en vidéo, si vous voulez avoir l'image. Et maintenant, on se préoccupe du temps qu'il fait depuis 15 jours dans la région. Quelques extraits de ce que vous avez pu entendre sur nos radios durant cette période pour vous rafraîchir la mémoire.
Météo, du soleil sur l'ensemble de la région. Aujourd'hui, quelques voiles de nuages seront toutefois possibles avec des températures entre 5 et 12 degrés.
Le brouillard est présent par endroits dans la région. Il pourrait même être givrant. Il disparaîtra ou a déjà disparu dans le Jura bernois.
Et ciel gris demain matin avec la fameuse couche de brouillard saisonnière, soleil au-dessus.
Un ciel bleu et du soleil pour cet après-midi, temps idéal pour la balade, mais prenez quand même une petite écharpe, une petite bise pourrait venir rafraîchir les températures.
Et bon, bah, si vous avez aimé le temps de ces derniers jours, vous aimerez celui des jours qui viennent, puisqu'il n'y a toujours absolument aucun changement à vous annoncer. Toujours une météo bicouche, avec une couche de soleil, de ciel bleu dans les hauteurs, et puis une belle grosse couche de grisaille sur les régions de plaine.
Et pour parler de cette météo bicouche, Frédéric Glasset, météorologue pour Météo News, bonsoir.
Bonsoir Gabriel.
Et c'est bien simple, hein, depuis quelques jours, en cette fin d'automne, c'est deux saisons pour le prix d'une.
Oui, là vous venez de comparer les journaux et leur position par rapport à Moutier. C'est vrai que c'est un Jura, un arc jurassien qui est très très partagé. Alors, ce qui est en commun à toutes les régions, qu'on soit au pied du Jura ou dans le Jura, c'est le manque de précipitations. Vous savez quel est le dernier jour de pluie dans la région ?
Je serais tenté de dire, ça devait être autour de la vingtaine de novembre.
C'est parfait, presque parfait. Le 19 novembre, c'est le dernier jour de pluie. Alors bravo, là, 20 points.
Merci,
le 19 novembre, donc ça va faire bientôt un mois, dans trois jours, qu'on a eu les dernières précipitations. Enfin, je dis pluie, ça pouvait être aussi accessoirement localement de la neige. Donc bientôt un mois qu'on n'a pas eu de précipitations sur l'arc jurassien. Donc là, c'est vraiment une situation atypique. Donc là, c'est général pour toutes les régions. Et puis alors là, s'il faut aller chercher des contrastes, alors on en a au niveau des températures. L'endroit le plus chaud dans l'arc jurassien, c'est à Chaumont, donc vers 1000 mètres d'altitude, avec une température moyenne de plus 3,8 degrés. Donc on est 4 degrés au-dessus des normales à Chaumont. Et puis à titre de comparaison, à Neuchâtel, on a une température moyenne de plus 0,9, mais la moyenne de décembre à Neuchâtel est de plus 2,7. Donc là, on est clairement en dessous. Et puis le contraste est encore plus saisissant quand on regarde l'ensoleillement depuis le début du mois de décembre. En tête, le Chasseral avec 114 heures de soleil pour les 16 premiers jours. 114 heures au Chasseral, 104 à la Chaux-de-Fonds en deuxième position, troisième Chaumont 99 heures. Et puis s'il faut aller au fond de classement, je ne veux pas être méchant, mais on a 18 heures seulement à Cressier et 13 heures de soleil à Neuchâtel.
Mon Dieu, Neuchâtel en bas de classement. Et c'est un peu kiff-kiff dans l'arc jurassien. Du côté des vallées, c'est aussi plus de soleil.
Alors oui, effectivement, après il y a des vallées ou certains coins de vallées qui sont beaucoup plus ombragés, donc là il peut avoir des contrastes, on le retrouve aussi sur les températures. On a une température moyenne à la Brévine, qui reste quand même la Brévine, de moins 4,7 degrés, mais principalement parce que les nuits étaient dégagées, donc très froides. Voilà pour la Brévine, le contraste entre Chaumont et la Brévine, qui sont à peu de choses près à la même altitude. Je vous ai dit, Chaumont, température moyenne sur le versant de 3,8 degrés, donc avec, on n'a pas ces refroidissements nocturnes. La Brévine, moins 4,7, donc 8 degrés d'écart pour deux points qui sont grosso modo à la même altitude et pas si éloignés l'un de l'autre.
Un mot sur Noël, hein. On a lu dans la presse que Noël ne serait sans doute pas blanc, le pourcentage de chances qu'il neige était minime. Est-ce que vous le confirmez ce soir ?
Oui, alors non. C'est vrai que c'était la météo. C'est vrai que le temps ces jours-ci ne change pas beaucoup, mais au niveau de la météo, il semblerait qu'on ait peut-être en passe d'avoir un changement de temps pour Noël. En tout cas, les derniers modèles qui sont disponibles du jour montrent qu'effectivement, entre le 24 et le 25 décembre, on pourrait avoir une première perturbation qui viendrait s'aventurer sur l'arc jurassien. Est-ce que d'ici là, donc c'est quand même dans une semaine Noël, est-ce que ça se confirmera ou pas ? Ça, c'est la toute dernière tendance. Mais c'est vrai qu'avant Noël, en tout cas, il n'y aura rien ou pas grand-chose, tout au plus peut-être un millimètre par-ci, par-là, plutôt apporté par des nuages bas de type stratus qui précipitent, du givre principalement, mais de précipitations à proprement parler. Avant Noël, rien ou pas grand-chose. Mais effectivement, peut-être, et ça, c'est un peu la dernière nouvelle du front, qu'on ait... Alors, pas un changement fondamental qui arriverait pour Noël.
Mettre de la neige, peut-être, ou quelques flocons. En tout cas, on va garder en tête cette nouvelle qui va sans doute en faire sourire et réjouir certains de nos auditeurs. Et on se réjouit de scruter vos prévisions, Frédéric Glacet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci, bonne soirée.
Bonne soirée.
Place publique.